midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Mon invité aujourd'hui s'appelle Josiane Assmann. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes journaliste d'écho, critique littéraire, et vous publiez votre premier livre. Ça s'appelle Les fleurs de l'âge, enquête sur les femmes qui se réinventent aux éditions Flammarion. Quel est le bon âge pour écrire un livre sur l'âge, puisque vous m'avez l'air quand même très jeune?
Ah, il n'y a pas d'âge pour écrire sur l'âge. Je vous le confirme. C'est drôle parce que c'est une question que m'a posée Perla Servan-Schreiber, que j'ai interviewée pour le livre.
Elle m'a dit, mais... femmes que vous interrogez.
Ouais, exactement. Elle m'a dit, mais vous êtes très jeune pour écrire un livre sur des femmes justement qui sont âgées. Je lui ai répondu, mais Perla, il n'y a pas d'âge pour parler de l'âge.
Mm-hmm. Vous avez mis la célèbre expression au pluriel. Alors, la fleur de l'âge, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent? C'est une expression dont on ne connaît pas forcément la signification.
Bah alors, la fleur de l'âge, justement, ça serait un âge idéal auquel on serait au top du top. Et en général, la fleur de l'âge, c'est un âge qui est plutôt jeune, en se disant qu'une fois qu'on a dépassé cet âge, il y a comme une sorte de date de péremption.
C'est le début de la fin.
C'est le début de la fin, voilà. Et donc, moi, je voulais montrer, à travers les fleurs de l'âge, qu'au contraire, la fleur de l'âge, c'est à tous les âges de la vie, en fait. C'est pas à un âge qui serait, évidemment, un âge qui représenterait la jeunesse, mais au contraire, on peut très bien avoir 50, 70, 90, même plus de 100 ans, et être à la fleur de l'âge, c'est-à-dire vivre des projets, des expériences, des émotions, être bien avec son âge et dans sa vie.
L'âge, c'est juste un chiffre, c'est totalement inutile, sauf si vous êtes une bouteille de vin. C'est de qui, ça?
C'est pas de moi.
C'est John Collins, 88 ans, je crois.
Chouette,
qui dit ça?
Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord.
Elle a déjà dépassé la date, elle, depuis longtemps.
Bah, non, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer
70
que...
ans de carrière, vous voyez, ça fait quand même 7 décennies...
Voilà. Et elle est toujours au top.
Et elle est toujours au top, ouais.
Donc, en fait, c'est l'intérêt, vraiment, c'est de comprendre que l'âge, ce n'est qu'une donnée. Et pour moi, c'est une donnée qui est presque archaïque aujourd'hui, puisqu'elle ne définit plus notre comportement. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on peut avoir 60 ans et avoir un mode de vie de quelqu'un qui a 40 ans. Il n'y a plus vraiment ces frontières, en fait, entre les générations. Ça, c'est quelque chose qui se balaye.
Ce qui n'était pas le cas avant.
Non.
Avant, quand vous aviez 60 ans, bon, bah, vous aviez le mode de vie qu'elle avait.
Exactement. Alors qu'aujourd'hui, on a un mode de vie qui est beaucoup plus jeune. Et c'est en ça que, pour moi, il ne faut plus se définir par son âge. Parce que l'âge représente une case. Donc dès qu'on se dit « Ah, mais je n'ai plus l'âge de faire ça » ou « À mon âge, je devrais arrêter de faire ça », là, tout de suite, on se met dans une case et on se restreint. Alors qu'au contraire, il y a plusieurs âges en plus. De quel âge on parle? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de l'âge qu'on a sur sa carte d'identité? Est-ce qu'on parle de l'âge qu'on fait? Sachant qu'aujourd'hui, vous voyez des femmes qui ont 50 ans, qui ont l'air d'en avoir à peine 40. Ou est-ce qu'on parle de l'âge qu'on ressent en soi? C'est-à-dire que moi, j'ai interviewé des femmes qui avaient 70 ans et qui avaient une pêche comme des ados, qui vivaient vraiment comme des jeunes filles, qui tombaient amoureuses et qui avaient une vitalité incroyable.
Mmh. On en parlera de ces femmes. Beaucoup qui vous écoutent vont dire « Oui, non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est une question de milieu, en fait. C'est fait pour les gens riches, ce qu'elle raconte. »
Ah bah, je vous confirme que ce n'est pas vrai, puisque moi, j'ai interviewé des femmes qui n'étaient pas riches du tout et qui étaient très ancrées dans leur vie. Et évidemment que ce n'est pas une question de milieu ni de l'argent. L'argent n'apporte pas la vitalité et la mentalité. Pour moi, c'est vraiment une question d'état d'esprit.
Oui, l'argent, ça ne vous rend pas plus jeune, en fait.
Malheureusement, non. Jusqu'à présent, non.
Non, mais il y en a beaucoup qui le croient, en fait.
Qu'est-ce que ça peut apporter de se faire des piqûres pour retoucher les rides? Mais ça ne va pas enlever le vieillissement de la peau. Ça, malheureusement, on ne peut rien y faire.
Alors, les femmes que vous rencontrez, hein, ont de 50 à 101 ans, à peu près.
Tout à fait.
Alors, il y a une femme, alors, je ne sais pas où vous avez trouvé ça, vous dites qu'elle conduit sa 708.
Bah, c'est Colette, elle a 92 ans.
Mais elle conduit une 708?
Mais surtout, elle conduit et puis à fond la caisse. Je peux vous dire qu'elle est venue me chercher à la gare le jour de ses 92 ans. Donc, elle m'a accompagnée jusqu'à chez elle avec sa voiture et elle prenait même des sens interdits. Elle conduit encore aujourd'hui et pour elle, il n'y a aucun problème. Mais je trouve ça tout à fait normal de conduire à son âge.
C'est une femme, Jackie, 70 ans, qui vous a inspiré ce livre. Retraitée de l'éducation nationale, aujourd'hui conférencière, elle a appris l'italien à plus de 60 ans. Qu'est-ce qui lui a pris de vouloir apprendre l'italien à 60 ans?
En fait, sa fille s'est mariée avec un Italien et donc ses petits-enfants parlent italien. Donc pour converser avec ses petits-enfants, elle a voulu apprendre l'italien. Et c'est là où on voit à quel point on a l'habitude de nous dire qu'à partir d'un certain âge, on peut plus apprendre ou la mémoire des failles. Pas du tout. Au contraire, si on l'entretient, on peut tout à fait apprendre une langue étrangère à n'importe quel âge.
Alors, vous vous êtes intéressé à celles qu'on appelle les pérennioles.
Pérennioles, ouais,
exactement. C'est comme ça qu'on dit ça.
Tout à fait.
Donc, les pérennioles, c'est par opposition ou pas, ou par complément aux millennials.
Oui. En fait, c'est un terme. À la base, en anglais, pérennial, c'est une plante vivace. Donc, c'est une plante qui fleurit plusieurs fois, contrairement aux autres plantes qui ne fleurissent qu'une seule fois. Et donc, derrière ce terme, en fait, c'est une dame qui s'appelle Jean Apple, qui est rédactrice en chef d'un magazine anglo-saxon qui s'appelle The What, qui a plus de 50 ans, et qui trouvait que c'était intéressant de qualifier de pérennioles des gens qui, justement, ne se définissent pas par leur âge, mais par leur état d'esprit, et qui fleurissent à divers moments de leur vie, c'est-à-dire qui se réinventent constamment. Donc moi, je trouvais ça intéressant.
Parce que pérennial, ça veut dire...
Ça veut dire se réinventer tout le temps, en fait.
On fleurit. Vivace, ça veut dire.
C'est comme les plantes vivaces. Voilà. C'est-à-dire, on fleurit plusieurs fois. Donc, on peut, évidemment, changer de job, changer de vie, avoir mille vies dans une vie et pas seulement une vie linéaire et classique.
Mmh. Avec un concept, c'est disrupter sa carrière avant qu'elle ne soit disruptée.
Oui, bah c'est vrai qu'on le voit d'autant plus aujourd'hui avec le contexte qui est comme il est. Évidemment, il faut se réinventer constamment, puisque si on ne pense pas en fait à anticiper cette réinvention, eh bah, elle nous arrive coûte que coûte en fait. Donc ça, c'est maintenant c'est une norme en fait de se réinventer. C'est pas quelque chose qu'on doit subir. Au contraire, c'est super agréable aussi de changer de métier, de vie, d'avoir un parcours qui est riche, d'apprendre des nouvelles choses, de sentir des challenges, en fait. C'est très agréable aussi.
Quel est le mindset, comme on dit aujourd'hui, des pérennioles? Parce qu'elles ont un mindset particulier, toutes ces femmes que vous avez rencontrées.
Oui, tout à fait. La clé, c'est vraiment leur état d'esprit, et c'est en ça que je voulais les interroger. Elles ont des... Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont... confiance en elles. C'est des femmes qui ont vraiment appris à avoir confiance en elles et qui, au fur et à mesure des années, se sont délestées en fait des contraintes, des jugements des autres. Donc elles ont acquis une liberté d'esprit et cette liberté leur donne envie justement de faire ce qu'elles ont envie de faire, peu importe ce que les autres disent. Donc elles ont vraiment un état d'esprit qui est tourné vers l'avenir. Elles ne regardent jamais le passé, elles se disent jamais « Ah, de mon temps, c'était mieux » ou «
Elles n'ont pas ce qu'on appelle
jeune.
Le syndrome du rétroviseur.
Exactement, le syndrome du rétroviseur, c'est le fait de se conforter dans la nostalgie de ce qu'on a été, c'est-à-dire de croire que c'était mieux avant et que justement on était plus belle quand on était jeune et qu'aujourd'hui, bah, avec les rides, les cheveux blancs, on est moins beau. En fait, non, c'est une vision un peu idéalisée de ce qu'on a dans la tête. Alors que ces perennials, au contraire, elles pensent à l'avenir. Même Arlette, qui a 101 ans, que j'ai interrogée, elle me disait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le passé, c'est qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. Et ça permet justement de rester ancré dans le présent et dans l'avenir, et donc de rester en pleine forme, en fait, quel que soit l'âge.
Et alors, ces femmes, elles ont des projets et pas des loisirs. Et ça m'a beaucoup intéressé comme distinction. Qu'est-ce que vous faites comme différence, vous, entre un projet et un loisir ?
Alors, un loisir, en fait, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. C'est du bon temps, c'est de passer du bon temps. Mais si on le fait pas, il va rien se passer. C'est pas grave, il y a pas d'obligation. Alors que quand on se crée un projet, on a l'obligation de le réussir et de le finir. C'est-à-dire qu'on prend des engagements vis-à-vis d'autres personnes. Par exemple, Jackie, qui est conférencière, eh ben elle a le projet de faire des conférences à telle date avec telle personne. Donc, elle est obligée de le faire. Et c'est en ça, justement, que cette distinction est importante. Parce que quand on est dans le projet et pas dans le loisir, on va toujours aller de l'avant et actualiser l'image que l'on a de soi. On est obligé de le faire. Et le fait d'actualiser l'image qu'on a de soi, ça permet justement de ne pas tomber dans le syndrome du rétroviseur, c'est-à-dire de pas rester dans la nostalgie de bah, les projets qu'on a fait avant, qui étaient chouettes, mais oui, d'accord, mais aujourd'hui et demain, qu'est-ce qu'on fait ? Donc cette notion de projet, se projeter, en fait, c'est ça qui est très très important justement quand on vieillit.
Alors je me demande si dans votre livre, c'est pas Jacques Attali qui parle de ça d'ailleurs.
Oui, tout à fait, c'est lui qui donne la définition.
Et qui est un homme, hein, donc est-ce qu'il pourrait être un Pyrénéol ?
Oui, bien sûr. En fait, il y a pas, c'est pas une question d'âge.
C'est pas que les femmes. Enfin, je veux dire, Pyrénéol, ça s'adapte. Messieurs, on est concernés.
C'est une catégorie de gens qui ont un état d'esprit particulier, qui est tourné vers l'évolution et la réinvention. Mais que ce soit des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, tout le monde est concerné.
Bon. Moi, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai un problème avec le mot se réinventer. J'avais l'impression que c'était un truc qui concernait la grande distribution. La grande distribution condamnée à se réinventer. Alors aujourd'hui, avec justement la pandémie qu'on vit depuis un an, on a l'impression que c'est la réinvention. On est tous dans la tournée vers la réinvention.
Oui. Bah oui, parce qu'en fait, on n'a pas le choix, et c'est là où.
Mais ça veut dire quoi se réinventer finalement ?
Ça veut dire
parce
ne pas rester
moi, des fois, je le comprends comme sur des gens qui subitement ont un super job et disent ouais non, tu vois, comprends, moi je m'ennuie. Je vais aller ouvrir une ferme
dans
le Larzac une maison d'hôte. Alors maintenant, c'est passé un peu de mode, la maison d'hôte, mais c'est vrai que beaucoup de gens voulaient aller écrire des livres dans le Larzac, faire des maisons d'hôtes. Je vais me réinventer.
Bah, parce qu'il y a une envie, je pense, de ne pas se limiter, en fait, à un seul plan de carrière, à une seule vie, à une seule dimension de ce qu'on pourrait être. Toutes ces femmes que j'ai interviewées, on voit à quel point elles sont plurielles, en fait. Elles ont plein de facettes différentes. Et donc, on peut très bien, à un moment donné, commencer par un job et puis finir par quelque chose de très différent. C'est en ça qu'on est riche en tant qu'humain. C'est qu'on a plein de choses à expérimenter et à montrer.
D'accord, mais toutes les femmes que vous rencontrez dans votre livre, quasiment, vous le dites, elles font tout déjà à l'envers.
Ouais.
Elles sont montées
à l'envers. Oui, c'est l'expression de Dominique.
Vous dites, on est monté à l'envers, mais donc quand vous êtes monté à l'envers, vous faites pas les choses comme tout le monde, en fait.
Ouais, c'est ça qui est beau, c'est qu'elles assument leur singularité, et c'est en ça qu'elles restent authentiques, je pense, et qu'elles ne subissent pas les jugements des autres, parce que peu importe en fait ce que les autres pensent, elles savent ce qu'elles aiment et ce qu'elles vont faire. Et à partir du moment où on assume justement cette singularité, alors être monté à l'envers, c'est une expression, hein, c'est juste pour dire on n'est pas obligé de faire comme tout le monde.
Mais c'est ça que ça veut dire.
Donc, ouais, alors, c'est
donc, chouette. Si on en revient à la réinvention, est-ce que tout le monde peut se réinventer ? Ou est-ce qu'il faut être monté à l'envers pour pouvoir de toute façon se réinventer, parce que c'est un mode de fonctionnement ?
Ouais. Alors, en fait, il y a deux choses. Je pense que il faut être au clair avec sa nature, avec sa personnalité. Évidemment qu'il y a des gens qui aiment la stabilité et avoir le même job pendant des dizaines d'années. Et tant mieux pour eux. L'important, c'est d'être heureux comme on est, avec ce que l'on est. Par contre, pour les gens qui ressentent justement ce titillement, en fait, ce truc où on a l'impression de pas être à la bonne place et qu'on sent qu'on veut changer et qu'on a autre chose à prouver, là, je pense que la réinvention, ça peut les aider à aller de l'avant, en fait, à montrer que il n'y a pas que cette possibilité-là dans la vie, il y en a plein d'autres. C'est vraiment le champ des possibles, en fait, la réinvention.
Alors, ça va peut-être vous rassurer si vous nous écoutez ce matin. Le bon âge pour se réinventer, c'est 50 ans, dites-vous.
En fait,
si j'ai bien compris, hein, vous dites que finalement, 50 ans, c'est la charnière pour se réinventer, même si aujourd'hui, sur le marché du travail et en entreprise, à partir de 45 ans, vous êtes déjà un senior, hein, vous êtes vieux.
Oui, bah, par exemple, moi, dans mon poste, aujourd'hui, j'ai un poste de senior. Alors, vous voyez, j'ai 32 ans. Donc, ça veut un peu rien dire. En fait, je parle de 50 ans parce que les femmes que j'ai interrogées me disaient que à 50 ans, dans une entreprise, on sent qu'on commence à être un peu mis au placard. C'est-à-dire qu'on nous dit gentiment, vous coûtez trop cher, vous êtes plus aussi jeune qu'avant,
non,
etc.
On ne dit pas aux gens qu'ils coûtent trop cher, en fait. Et parce que vous dites qu'en fait, finalement, si on se débarrasse des gens qui ont 50 ans, c'est pas parce qu'ils sont moins compétents, mais la vérité, c'est que parce que juste, ils coûtent plus cher.
Exactement.
Et que c'est vraiment une question financière.
Exactement.
Mais pas une question de performance, ni de...
On leur dit, on a moins de désir pour toi. Ça, c'est ce qu'on a dit à Sophie Fontanelle, avant de la remercier au magazine Elle, pour lequel elle travaillait. On lui a dit, on a moins de désir pour toi. Et Natacha, que j'interview aussi, qui a 54 ans.
Alors, pourquoi vous mettez Sophie Fontanelle dans votre livre, alors que de toute façon, vous ne l'avez pas rencontrée, elle vous a posé plein de lapins?
J'ai failli l'interviewer, mais moi,
je l'aurais zappé.
Parce que je trouvais que son discours était intéressant.
Son discours était intéressant. On lui dit, dans son journal Web Travail, qu'on a peut-être moins envie d'elle. Et bim, vous qui avez tellement envie d'elle, paradoxal, elle vous plante.
Oui, mais ce livre, il est fait pour aider les femmes. Donc le but, c'est justement de montrer à travers ce qu'elle dit, et vraiment ce qu'elle dit, c'est très très intéressant là-dessus, notamment sur les cheveux blancs, de partager la bonne parole et évidemment de diffuser ces messages-là. Mais je lui en veux pas.
Vous n'êtes pas rancunière, finalement. C'est peut-être aussi le secret des Pyrénioles.
Ah, peut-être. On n'a pas discuté de la rancune, mais c'est vrai que... J'ai l'impression que sur elle, les choses glissent. Elle s'intéresse surtout aux choses importantes, justement parce qu'elles ont vécu aussi des obstacles et des choses graves, et c'est en ça qu'elles deviennent puissantes.
Voilà, on parle des fleurs, les fleurs de l'âge, hein, enquête sur les femmes qui se réinventent chez Flammarion, et c'est Josiane Hassmann qui est notre invitée jusqu'à 13h dans le Book Club.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, finalement, je ne me rendais pas compte, mais on parle d'un sujet assez tabou ce matin. C'est la question de l'âge, puisqu'on est rentré dans une société dans laquelle les gens vieillissent de plus en plus, mais on est dans une société qui n'aime pas les vieux.
On est dans une société complètement jeuniste. C'est-à-dire que le seul âge possible, il doit forcément être jeune. Alors qu'il y a un décalage total, comme vous le dites, entre le jeunisme ambiant, donc c'est vraiment cet amour de la jeunesse, et... le fait que dans la réalité, nous sommes une société vieillissante, où bientôt il y aura plus de vieux que de jeunes.
C'est Josiane Hassmann qui parle aujourd'hui. Vous êtes journaliste d'écho, critique littéraire, et vous publiez votre premier livre, Les fleurs de l'âge, enquête sur les femmes qui se réinventent chez Flammarion. Alors vous parlez, vous avez rencontré 10 femmes. On a vu que la plus âgée avait 101 ans. On dit pas vieille.
On peut dire vieille, moi, ouais, ça me dérange
101
pas.
101 ans. Puis il y a celle que vous avez pas rencontrée, mais qui vous inspire aussi, parce qu'en fait, toutes ces femmes ont en commun d'être âgées, mais d'inspirer et d'être des modèles d'inspiration pour les jeunes. Il y a Christine Lagarde que vous citez, Roselyne Bachelot.
Tout à fait, qui est devenue ministre de la Culture entre-temps, pendant que j'étais en train d'écrire mon livre, tout à fait.
Et c'est marrant parce que Roselyne Bachelot, autant elle pouvait faire un peu pas dynamique, un peu plan-plan quand il y a 20 ans, quand elle faisait de la politique, autant aujourd'hui, elle a gagné en image de modernité.
Oui, elle a même écrit un livre qui s'appelle « Bien dans mon âge », où elle donne des conseils au sexe à plus, comme elle les appelle, donc aux femmes de 60 ans, qui sont toujours très dynamiques et séduisantes, en montrant comment on peut s'habiller en étant bien dans son âge, sans s'interdire évidemment des choses, parce que c'est ça qui est difficile avec l'avancée en âge, c'est que inconsciemment dans la tête, on s'interdit de plus en plus, on se dit « oh bah non, je suis trop vieille pour faire ci, je suis trop vieille pour dire ça, je suis trop vieille pour aller là », mais pas du tout, on n'est jamais trop vieux pour rien, ni pour écrire, ni pour aimer, ni pour se réinventer, ni pour rien du tout.
Ça veut dire que c'est encore une fois une construction mentale.
Complètement, et sociétale. C'est-à-dire que la société y est pour beaucoup. Je pense que l'industrie des cosmétiques fait beaucoup pour nous faire croire que avoir des rides, c'est un drame. Alors que non, avoir des rides et vieillir, c'est juste le signe qu'on avance en âge et donc qu'on vit. Et en fait, vieillir, quand on y pense, c'est quand même une chance. Ça veut déjà dire qu'on est en vie.
La vieillesse est une évidence à laquelle on n'échappe pas, sauf si l'on meurt jeune.
Ah, c'est de qui ?
Je ne sais pas, mais c'est pour ceux qui pensent, qu'ils disent, t'es vieux, ouais. Mais c'est encore ça, c'est de dire finalement, je suis vieux, donc j'ai la chance d'être vivant.
Tout à fait.
Les femmes que vous n'avez pas rencontrées ne sont pas du tout des femmes liftées, des femmes, enfin, des femmes qui ont l'air jeunes parce qu'elles ont fait des choses pour faire 20 ou 30 ans de moins que leur âge.
Non, au contraire, ce sont des femmes qui assument pleinement leurs rides et leurs cheveux blancs. Et moi, je trouve que c'est en ça qu'elles sont belles. C'est parce qu'elles n'ont pas de problème avec cette apparence physique. Évidemment, la clé, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que si on n'accepte pas son corps qui vieillit, ça va être compliqué. On aura tendance à vouloir le gommer, le tirer, ne pas l'aimer comme il est. Alors que, en fait, encore une fois, c'est une chance de pouvoir avoir ça. Et les rides, c'est quelque chose de complètement naturel.
D'accord. Donc, vous dites que une des clés, justement, des Pyrénéoles, c'est de s'accepter comme elles sont.
Oui.
Et que l'acceptation de soi et de son corps tel qu'il est aujourd'hui, c'est la condition sine qua non d'une vieillesse heureuse.
Tout à fait.
Si on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on voit dans la glace.
Bah ça dépend des jours, mais par exemple Patricia que j'ai interrogée qui a 58 ans, elle m'a donné un conseil que j'ai beaucoup aimé. Elle me dit évidemment il y a des jours où on s'aime pas, c'est compliqué, on n'a pas envie, mais le reste du temps, pourquoi est-ce que on s'offrirait pas un petit sourire devant la glace quand on se voit? Et rien que le fait de se sourire à soi-même, c'est une forme de bienveillance. La bienveillance envers soi-même. Alors, on parle beaucoup de bienveillance envers les autres en ce moment. Mais il faut aussi.
C'est pareil, c'est le mot, c'est comme se réinventer.
C'est partout,
alors,
la bienveillance.
Alors là, je peux vous assurer.
Mais on parle jamais de celle envers soi-même. C'est-à-dire, commençons déjà par s'aimer un minimum, être gentil avec soi un minimum, surtout quand on traverse un deuil, un divorce, enfin voilà, des choses qui sont difficiles, qui font aussi partie de la vieillesse. Commençons par déjà se donner des marques d'affection.
Quelle est la bonne attitude, s'il y en a une, pour regarder son corps vieillir?
Sophie Fontanelle part de curiosité, c'est-à-dire que... quand elle a eu ses cheveux blancs, quand elle a accepté ses cheveux blancs, elle avait rencontré une femme, elle en parle dans son livre Une apparition, elle a rencontré une femme qui avait des cheveux blancs et elle lui a dit « Est-ce qu'il faut du courage pour laisser ses cheveux blancs ?» Et la dame lui a dit « Non, il faut de la curiosité. » Et elle s'est dit « Tiens, je vais avoir de la curiosité envers moi-même. » Et je pense qu'encore une fois, c'est vraiment le point de vue qu'on adopte. Si on pense que les cheveux blancs sont un drame, évidemment qu'ils le seront. Si on se dit « Tiens, qu'est-ce que ça dit de moi ? Et comment je serais si j'étais comme ça ? Est-ce que ça pourrait pas être aussi quelque chose de lumineux sur ma tête ?» Ben là, forcément, ça va tout de suite mieux.
Pourquoi la question des cheveux blancs quand on vieillit, c'est vraiment la chose qui est pas acceptable chez les femmes.
Énorme, c'est un tabou énorme chez les femmes. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mes recherches dessus. Et en fait, les cheveux tout court sont chargés symboliquement pour les femmes. C'est vraiment un poids qu'on a
c'est
sur
comme
la
les
tête.
Cheveux longs à partir d'un certain âge. On vous dit voilà. À partir d'un certain âge, il faut plus porter les cheveux longs, par exemple.
Oui, et quand on est jeune, c'est l'inverse. On nous dit, bah, pour une fille, c'est bien les cheveux longs parce que c'est symbole de féminité. Bah, non, pas du tout. D'ailleurs, moi, quand j'ai fini mon livre, je me suis coupé les cheveux très courts. Ça m'a complètement libérée d'un poids que j'avais sur la tête.
Bon, et vous n'avez pas encore de cheveux blancs?
J'en ai deux.
Deux?
Ouais.
Vous verrez, ça augmente. Tirez dessus.
Oui.
Non,
alors ça c'est un mythe aussi.
Ah c'est pas vrai?
Bah non, de croire que quand on l'arrache, il y en a d'autres qui poussent.
Non?
Non.
J'ai vu des études de scientifiques sur les cheveux blancs.
Non, il n'y a pas besoin d'avoir des études de scientifiques pour savoir que... En fait, c'est une sorte de terreur qu'on a tous autour des cheveux blancs parce que ça devrait être cassant, ça devrait jaunir, ça devrait... Mais en fait, c'est la nature, c'est quelque chose qu'on a en nous, c'est comme les rides, c'est juste le corps qui avance. Encore une fois, on a bien de la chance d'avoir tout ça.
Donc, mais à partir de 45 ans, donc, si on écoute ce que vous dites, beaucoup de gens devraient avoir les cheveux blancs ou gris. Alors que c'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui.
Bah parce qu'elles l'éteignent, parce qu'on ne s'autorise pas. J'utilise ce mot de s'autoriser, parce que c'est celui de Sophie Fontanelle. Elle disait, voilà, si je réfléchis à pourquoi je me teins les cheveux blancs, en fait, la question sous-jacente, c'est pourquoi je ne m'autorise pas à les avoir? Pourquoi je ne m'autorise pas à être moi-même? Qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça? Et qu'est-ce qui peut m'aider? Alors, elle, pour le coup, c'est son frère qui l'a aidée. Quand elle l'a appelé pour lui dire, voilà, je vais arrêter les teintures, il lui a dit, ah, enfin! Et le fait d'avoir quelqu'un qui valide ça et qui dise « Ah ben enfin, tu vas être tellement mieux comme ça !» Je me souviens aussi du mari de Tatiana de Ronay, qui est écrivaine, quand elle s'est autorisée les cheveux blancs, il lui a dit « T'es poivre et sexe !» pour poivre et sel. Vous voyez, en fait, c'est des petites choses comme ça qui font
ça,
plaisir.
Ça, c'est peut-être un acte manqué. Il faut consulter, non, là.
Parce qu'à côté de ça, on entend tellement de gens qui disent « Oh là là, mais tu peux pas faire ça, tu vas prendre un coup de vieux, tu vas être moins
sexy. » Non, mais
sexy,
les cheveux blancs, c'est synonyme de « tu vas prendre un coup de vieux ».
Oui.
Et de « tu es vieux ou vieille ».
Alors que ça, c'est une construction mentale, sociale, pas du tout. En quoi ? Moi, j'adore, par exemple, une femme que je trouve super, c'est Iris Apfel. Elle a plus de 90 ans, elle a les cheveux blancs, elle a des énormes lunettes parce qu'elle a une mauvaise vue.
Bon, elle a été rattrapée par le milieu de la mode qui en a fait une égérie, fashion icon.
Mais elle est bien comme elle est. Et si elle avait les cheveux noirs et qu'elle se faisait des teintures, je pense qu'elle serait un peu moins iconique. Là, c'est parce qu'elle a la liberté de faire tout ça qu'elle est stylée.
Vous avez abordé beaucoup de sujets avec les femmes que vous avez interrogées. Vous avez parlé de sexualité, tout ça, mais vous n'avez pas osé aborder la question du deuil.
Alors,
pourquoi est-ce que vous n'avez pas osé parler de la mort? Parce que finalement, aller en âge, c'est aussi de se rapprocher de l'âge de sa propre fin.
Ça dépend à quel âge. Parce que ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on entend dès 40 ans. On entend des femmes qui disent « Ah voilà, 40 ans, ça y est, je me rapproche petit à petit de la fin. » Or, on voit à quel point c'est une construction. Je trouve plus mon mot.
Allez-y, faites-moi un signe, on va faire pyramide, si je peux vous aider. L'âge de quoi ?
Des femmes en France aujourd'hui, c'est 85,6 ans.
La moyenne ?
Oui, on meurt à 85,6 ans. Donc vous voyez qu'à 40 ans, on est loin.
On n'a pas fait la moitié de sa vie. Ouais.
On n'est même pas à la moitié de sa vie. Donc en fait, cette histoire de la mort, je pense que c'est quelque chose qu'on se dit. Parce
non, mais le deuil, par exemple, moi, je veux dire le deuil de, par exemple, de leur compagnon, de leur mari, parce que ça arrive dans les femmes que vous avez rencontrées.
Oui, tout à fait.
Là, elles ont perdu leur compagnon de 40, 50 ans ou 60 ans, peut-être.
Oui, tout à fait. J'en ai parlé avec Claudia, qui a perdu son mari, et elle en parle de manière très métaphorique, parce que elle s'exprime avec beaucoup de métaphores et d'images, et elle disait que ce deuil, pour elle, ça l'avait obligée à devenir surfeuse, c'est-à-dire qu'elle surfe sur les obstacles de la vie. Elle prend la vague, en fait, donc pour le coup, quand il y a eu cet événement tragique, ça a été une vague très forte, ça a été comme un ouragan, comme elle dit, et puis petit à petit, voilà, elle apprend à prendre la vague comme elle est et à surfer avec, donc c'est une façon de faire avec et comme on peut, évidemment.
Les fleurs de l'âge, c'est le livre que le Book Club vous propose ce week-end. Un livre de Josiane Asman, qui est notre invité jusqu'à 13h. C'est une enquête sur les femmes qui se réinventent. Et l'éditeur, c'est Flammarion.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Allez, un nouveau mot, Pyrénéol, qu'on apprend aujourd'hui. Elle a fait une conférence d'ailleurs, celle qui a inventé le mot, qui est très bien faite.
Oui, Jean Appel, on peut la retrouver sur Internet.
Et est-ce qu'il y a un âge idéal ?
Non, je pense qu'il n'y a pas d'âge idéal. Je pense qu'il faut vraiment s'éloigner de cette notion d'âge qui nous enferme. Et qu'il faut parler de rayonnement d'ailleurs. Ça me rappelle Patricia, une des femmes que j'ai interrogées, qui me disait que plutôt que de parler d'âge, on devrait parler de rayonnement. À quel moment dans sa vie est-ce qu'on rayonne, est-ce qu'on se sent épanoui, est-ce qu'on a cette lumière en fait qui jaillit de nous? C'est ça qui est important, c'est pas l'âge.
Alors Josiane Asman est notre invitée aujourd'hui. Vous publiez Les fleurs de l'âge, c'est votre premier livre aux éditions Flammarion. Patricia, dont vous nous parlez, est une slasheuse.
Oui.
Qu'est-ce qu'on appelle une slasheuse?
Alors slasher, ça vient du mot slash en anglais, donc c'est la barre oblique. Pour montrer qu'on peut avoir différents métiers en une vie. Donc on peut être, j'en sais rien, boulanger slash sculpteur. Et donc elle multiplie les slash puisqu'elle est à la fois conférencière, styliste, entrepreneur.
Conférencière en prison.
notamment en prison.
Donc voilà, ça s'invente pas. Elle est...
Et elle est professeure d'amour, surtout. Elle réfléchit à cette notion d'amour et elle donne des conseils à des gens qui viennent l'écouter.
Métier plutôt original, quand même, hein.
À tout ce qu'elle fait est très très original. Elle aussi, elle est bien montée à l'envers. Et je l'aime beaucoup parce que pour moi, c'est un vrai rôle modèle. C'est l'incarnation même qui montre comment il faut pas se limiter en fait. C'est comme l'âge. L'âge, c'est quelque chose qui limite. Elle montre que on peut avoir plein de métiers différents dans des domaines différents. On n'est pas obligé de se cantonner à un domaine. Et c'est la vie aussi et les expériences qui nous emmènent en fait vers d'autres chemins.
Est-ce que les femmes que vous avez rencontrées pour l'écriture de votre livre savent et connaissent leur âge?
Alors parfois non, Claudia par exemple, elle me disait que c'est pas qu'elle veut pas donner son âge, mais c'est que quand on lui demande, elle ne se souvient même plus de l'âge qu'elle a. C'est pour dire à quel point cette notion est pour moi un peu archaïque, parce qu'il y a aussi l'âge qu'on a dans sa tête. On peut avoir 90 ans et parfois tomber amoureuse et avoir 15 ans et des papillons dans le ventre. Il n'y a pas de définition en fait à ça.
Mmh. Et la sexualité ne s'arrête pas à l'âge de la retraite.
Bah non, comme le désir et l'amour, il n'y a pas de date limite en fait. On peut aimer jusqu'à son dernier souffle.
Vous rencontrez Arlette qui a 101 ans. Qu'est-ce que ça signifie que d'être moderne quand on a 101 ans ?
Alors, ça signifie que par exemple, quand je suis allée la voir. Elle me disait qu'elle lisait les mêmes magazines de déco que moi. Elle a un smartphone qui est plus moderne que le mien. Elle a son ordinateur portable. Elle parle régulièrement avec ses arrière-petits-enfants et elle ne ressent pas du tout de conflit de génération.
Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez chez toutes les femmes que vous avez rencontrées. C'est que par rapport à la technologie, elles sont vraiment toutes de leur temps.
Elles sont très modernes, oui, Jackie, tous les jours, elle m'envoie des vidéos rigolotes sur WhatsApp, Colette, elle va commander son Uber, enfin, en fait, ça c'est pareil, c'est un cliché qu'on a sur la vieillesse, comme quoi les vieux seraient en décalage total avec la vie moderne et ce qui se passe aujourd'hui, ça peut être vrai pour certaines personnes, mais c'est pas le cas de tout le monde.
Donc très à l'aise avec les nouvelles technologies en tout cas.
Ah bah oui, très à l'aise, oui.
C'est pas une question qui se pose.
Bah non, parce qu'en fait elles vivent dans le même temps que nous. C'est-à-dire qu'elles ne se disent jamais bah de mon temps c'était différent. Et pourtant Arlette elle a quand même connu deux guerres, donc elle pourrait le dire. Et pas du tout, au contraire, pour elle c'est juste un moyen de communication comme un autre. Et comme leur temps c'est notre temps, et bah elles sont ancrées dans ce temps présent avec nous.
Alors, la base, quand même, c'est la santé.
Oui, la santé, c'est très important.
C'est quand même, si on veut être pérennial, faut d'abord avoir une super santé.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que, évidemment, moi, je parle d'une vieillesse qui est heureuse et en bonne santé. Donc, bien sûr qu'il y a aussi une vieillesse en mauvaise santé qui est plus difficile. Mais Perla, par exemple, elle a eu un cancer. Elle a surmonté ce cancer. Évidemment qu'elles ont mal au dos, c'est normal, hein, je suis pas en train de dresser un portrait idyllique et naïf et tout rose de la vieillesse. Mais je pense que même si on a des petits accrochages, on peut continuer dans sa vie justement grâce aux projets qu'on crée, grâce à cette mentalité qu'on met en place, à avoir toujours de la vitalité. C'est-à-dire que pour moi, des yeux qui pétillent, il pétille, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau de vie et la santé qu'on a.
Toutes les femmes que vous avez rencontrées sont ce que vous appelez des rôles modèles. C'est quoi un rôle modèle ? Je ne connaissais pas l'expression en fait.
Un rôle modèle, c'est une personne qui nous inspire pour ce qu'elle est. Et pour moi, c'était très important d'écrire ce livre pour ça, parce que souvent, on a l'image... Déjà, chez les femmes âgées, de personnes qui sont fragiles, qui sont empêchées. Et moi, je voulais montrer que non, il y a d'autres schémas qui existent. Et puis aussi, je voulais montrer que ces femmes âgées, pour moi, je pense que c'est les nouveaux modèles des trentenaires. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas attirée par des filles qui ont 20 ans. Ce qui m'intéresse, c'est justement des femmes plus âgées, savoir comment elles ont fait pour surmonter les obstacles, pour construire leur vie, pour être épanouies et pour avoir quelque chose de vraiment complet et d'enrichissant.
Car à 30 ans, finalement, vous vous projetez sur des femmes qui ont 20 ans de plus et qui vous inspirent dans peut-être votre parcours, c'est ça ?
Exactement. Je me dis, ah bah voilà, plus tard, moi j'ai envie d'être comme ça, en fait. C'est ça qui est intéressant.
Alors, il y a une autre expression qu'on apprend, c'est les « unretired », les déretraités. Oui. Parce que toutes les femmes que vous rencontrez, finalement, sont encore actives. Donc, quel regard elles portent sur cette notion de retraite ?
Alors, la retraite, il y a deux choses. Évidemment que quand on est fatigué et épuisé, on a largement le droit de profiter de sa retraite et de ne rien faire ou de faire des loisirs. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Ensuite, il y a une autre catégorie de personnes qui arrivent à la retraite et qui ont encore une pêche d'enfer et qui ont encore plein de choses à prouver. Et là, je pense qu'il faut profiter de ce temps pour créer des projets. Ça peut très bien être créer des boîtes. Marie-France Cohen, par exemple, elle a 76 ans. À l'âge de la retraite, elle était encore pleine d'envie et d'imagination pour créer des nouvelles entreprises. Et elle l'a fait d'ailleurs avec succès.
Alors, elle a fait des nouvelles entreprises, en plus humanitaires.
En plus, elle a une activité.
Et finalement, moi, j'habite juste à côté du lieu qu'elle a créé, et je ne connaissais pas l'histoire du lieu.
Merci. Oui, merci.
Je ne connaissais pas du tout cette histoire.
Elle a créé.
Pour moi, c'était un lieu branché, bobo.
Oui, parce qu'elle n'en parle pas. En fait, elle voulait pas mettre l'accent sur la philanthropie, mais au contraire sur la branchitude. Donc Marie-France Cohen, en fait, c'est la cofondatrice à la base d'une marque de vêtements pour enfants qui s'appelle Bon Point, qu'elle a fondée avec son mari. Ils ont fait ça pendant 30 ans. Ils l'ont vendue. Ils sont arrivés donc à l'âge de la retraite où, en effet, ils auraient pu faire du jardinage, profiter de la vie et faire des cookies pour leurs petits-enfants. Et ils se sont dit, mais non, mais on a encore tellement de choses à prouver. Donc, ils ont créé un concept store, donc une boutique à la fois déco, art de vivre, lifestyle, mode, qui s'appelle Merci, parce qu'elle disait, on va dire merci à la vie pour tous les cadeaux que la vie nous a offerts. Et comme chez Bon Point, ils faisaient travailler des personnes de Madagascar qui cousaient les vêtements, ils se sont dit que tous les fonds que Merci allait gagner seront reversés aux personnes de Madagascar. Donc ils ont carrément créé, parce que depuis, elle a transmis justement cette valeur de philanthropie à ses fils qui perpétuent la tradition. Ils ont créé un fonds de dotation.
Et ça fait des sous aujourd'hui.
Et
c'est
ça fait
beaucoup d'argent.
Et ça fait des écoles, des cantines pour les gens à Madagascar. Donc ils sont carrément recréer un village entier pour aider les gens. C'est absolument phénoménal.
Et ce qui prouve aussi qu'à 76 ans, même si on a déjà eu du succès, on peut en avoir encore plus.
Tout à fait. Et puis, une fois qu'elle a fait Merci, elle a continué avec une boutique de décoration qui s'appelle Démodé. Alors, Démodé, c'était le jeu de mots, justement, pour dire, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est démodé. Et même si la mode se démode, le style reste. Alors ça, c'est ce que disait Coco Chanel, mais c'est dans cet esprit-là qu'elle a créé ça.
Bien. Qu'est-ce que vous avez compris de toutes ces femmes que vous avez rencontrées? Qu'est-ce qu'elles vous ont laissé comme message principal?
Alors, honnêtement, elles ont changé ma vie. Le fait de les interviewer, ça m'a beaucoup fait progresser psychologiquement sur ce que j'étais capable de faire. Et ça m'a libérée de contraintes mentales que j'avais, de barrières psychologiques que je me mettais toute seule ou de fait d'être... C'est vrai qu'on est quand même dans une société du like, c'est-à-dire que on recherche de plus en plus d'être aimé, d'être liké sur les réseaux sociaux, d'être montré. Et ces femmes qui sont libres et puissantes parce qu'elles se débarrassent de tout ça, moi, ça m'a donné envie de faire pareil, donc ça m'a beaucoup allégée, en fait.
Tiens, alors, celui qui parle, tiens, on va se quitter avec lui, c'est Philippe Catherine. Il passe en force. Lui aussi, on peut pas dire qu'il soit monté à l'endroit.
Non, je...
Enfin, il a pas l'air, en tout cas.
Non, mais je l'adore justement pour ça. Il est pérégnole aussi. Il fait très pérégnole.
Maintenant, ouais, voilà. C'est une star. C'est devenu une vraie star aujourd'hui. Une star consensuelle aujourd'hui. Les fleurs de l'âge, c'est le titre, Josiane Asman, que vous publiez. Enquête sur les femmes qui se réinventent aux éditions Flammarion. Merci d'avoir été avec nous et très
Merci
bon dimanche.
Merci beaucoup. Des bisous.
je te défonce la gueule tout en insultant et papa les mamans. Au fond, qu'est-ce qu'on veut? Au fond, qu'est-ce qu'on cherche? Quand on se dit fuck, mais qu'est-ce qu'on attend? Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.